Dniostria, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview en pleine Japan Touch à Lyon.
Il n'y a aucun problème.
C'est pour l'émission La Geek Nation et
D'accord.
notre angle c'est la culture geek, mais j'ai envie de vous parler de votre carrière de comédien avant tout et de pourquoi vous avez fait ce métier si particulier, parce que nous on est plusieurs dans l'équipe à le faire également.
Ouais.
Comment ça a commencé pour vous le jeu? À quel moment vous vous êtes dit ce métier c'est pour moi?
C'est pour moi, ça aurait été un peu prétentieux, mais il m'a attiré très tôt l'activité de comédien. Je crois que j'avais 4-5 ans. Et c'est drôle, hein, si on fait. C'est une coïncidence, enfin, je pense. Mais un des plus vieux souvenirs que j'ai, c'est un film qui passait à la télé, un film de pirates. Et je pense pas que c'était prédestiné, mais enfin, on ne sait jamais. Et je me rappelle avoir demandé à mes frères aînés ou à ma sœur, je sais plus, mais c'est un vrai, il le fait vraiment ce qu'on voit. Et il ou elle m'a répondu, ben non, c'est un acteur, avec un air évident. Bon, j'avais 4 ans. Et je me suis dit, oh, ça doit être bien ça. Et c'est un des plus vieux souvenirs où je me suis dit, ça doit être vraiment bien de faire ça. Et bon, je dis ça, mais c'est. Après, il se trouve que même gamin, j'ai été cinéphile très très jeune. Et j'adore ça. Et je me suis toujours intéressé aux films, aux acteurs, puis après aux pièces de théâtre. Et voilà. Puis à un moment, je me suis dit, c'est tellement une passion que je vais essayer. Puis voilà.
La cinéphilie, ça crée des modèles ou
J'en sais rien, ouais, peut-être, sûrement, mais c'est vrai que c'est par les films vus à la télé ou vus en salle que cette profession m'a attiré.
Et comment vous avez commencé votre carrière? Le premier jour où vous êtes dit comédien, qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, c'est pas un premier jour, c'est d'essayer. Bah, moi, je viens de Strasbourg et d'où je suis originaire. Donc, en même temps de mes études après le bac, j'ai fait une fac, Sciences Po. Mais en même temps, j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique de Strasbourg, du théâtre universitaire. J'ai vu que j'arrivais à faire les choses en même temps. Et puis, bah, au bout de 3 ans, puisque Sciences Po, j'avais choisi ça parce que ça durait que 3 ans. Il n'y avait pas de licence en 4 ans, on avait un vrai diplôme en 3 ans. J'ai filé à Paris pour tenter ma chance, j'ai suivi des cours notamment chez Jean-Laurent Cochet. Et puis après, bah, j'ai eu la chance de commencer assez vite à jouer au théâtre. Et puis, j'ai un peu tout essayé. Des comédiens me disaient, essaye le doublage aussi, essaye ceci, cela. Et je suis arrivé à faire un petit peu des choses dans le doublage, et puis ça a fait tache d'huile. Et
Votre premier rôle, vous vous en souvenez?
en doublage ou en
En
théâtre?
général, la première fois où vous avez vraiment joué, vous vous en souvenez? C'est quelque chose de marquant ou c'est juste le début de quelque chose de
Ouais, non,
plus
le début
large?
de quelque chose, parce que alors si c'est. Ouais, alors c'était peut-être au scout, du coup, si mais dans des conditions très amateurs, mais avec une vraie passion et une vraie envie, et je m'étais réservé le rôle important de la pièce, j'avais tout. Je crois que je restais un peu au scout pour pouvoir monter sur scène.
Et votre arrivée dans le doublage, comment ça s'est fait?
Très progressivement, donc comme je vous disais, c'est des personnes, des comédiens et comédiennes que je voyais, plus âgés, m'ont dit, faut tout essayer dans ce métier, et le doublage en fait partie. Donc j'ai frappé à la porte des studios, j'ai assisté à énormément de séances de doublage, d'enregistrement, et en fait j'ai beaucoup appris en regardant des comédiens aguerris à cette technique du doublage, à voir comment ils faisaient, à essayer dans ma tête de suivre ce que eux faisaient, et j'essayais de temps en temps de demander à la personne qui dirigeait s'il y avait moyen de passer un essai. Souvent, en général, c'est des séances qui sont les séances de doublage, on termine plutôt en retard qu'avant l'heure, donc faire un essai était assez difficile. Mais bon, bah, je continuais à revenir, puis un jour, j'ai dit, ah bah oui, tiens, tu peux faire un essai. Et peut-être que le fait d'avoir attendu longtemps, d'avoir beaucoup observé, bah, ça a marché par contre après relativement vite, et puis mon nom a circulé, et voilà.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette discipline par rapport au reste du panel, de ce qu'on fait en tant que comédien?
Peut-être qu'il y a une accumulation de contraintes, il faut travailler vite. On n'a pas un mois de répétition comme au théâtre, on n'a pas un scénario qu'on nous envoie avant comme sur un tournage. Il faut travailler vite, il faut tenir compte de. Il y a plein de contraintes que je trouve assez stimulantes de voir un comédien étranger qui, lui, a déjà joué le truc, observer ce qu'il fait, faire passer les mêmes sentiments, mais par une. quelque chose de vrai, mais devant un micro, dans une. Enfin bon, il y a toute une accumulation de contraintes et trouver sa vérité, sa liberté là-dedans, je trouve que c'est une bonne discipline. Moi, j'aime bien ça.
C'est un exercice qui devient facile avec le temps ou est-ce qu'il y a toujours une recherche? Est-ce que c'est toujours constamment des questions, des doutes, des choses?
Ah, difficile. Je crois qu'on se pose toujours des questions, on a toujours un peu l'impression, moi j'ai toujours un peu le trac, et ça dépend des rôles. Il est vrai que quand on fait un comédien sur une série plus ou moins longue, bon, on connaît un peu l'ambiance, on n'arrive pas en terrain inconnu, donc ça peut peut-être aider. Et puis peut-être qu'inconsciemment, à force d'en faire, il y a quand même une technique sur le plan, ne pas avoir peur de cette bande rythmo où le texte défile. Ça devient une habitude, ça. L'important, moi je pense vraiment, et je crois que c'est ce que disent la plupart de mes collègues, c'est de se focaliser sur le jeu et arriver très vite à être dans l'état émotionnel du personnage, quoi.
Avant de parler un peu plus de doublage et des comédiens que vous avez doublés, j'ai quand même une question pour vous. Est-ce qu'un comédien, c'est quelqu'un qui a plusieurs boulots, c'est-à-dire de la fiction, du théâtre, du doublage, etc., avec des façons différentes de le faire, ou est-ce que c'est un même métier avec différentes facettes?
Je dirais un même métier avec différentes facettes, c'est-à-dire que voilà, le doublage en est une, et le tournage, le théâtre en est une autre, le commentaire, je fais beaucoup de commentaires aussi, c'est pas de la fiction, mais pour des chaînes, Arte par exemple. Non, je dirais que au départ c'est le même boulot, mais ouais, mais avec des disciplines et des facettes différentes. Ouais.
C'est quand même un métier extrêmement riche finalement.
Ben moi je trouve, oui, quand on a la chance de le faire et régulièrement, et ouais.
Termes de doublage, comment est-ce que vous définirez le lien que vous avez à un comédien américain? Quand vous le regardez dans les yeux, quand vous regardez ses labiales, etc., comment est-ce que vous définirez le lien que vous avez par exemple avec Orlando Bloom, que vous avez doublé au moins 16 ou 20 fois, je ne sais plus exactement, mais à quel moment on commence à se dire, ah, je commence à comprendre ses mimiques, je commence à me dire, ah là, je l'ai dans le regard là.
Oui, alors ça dépend aussi des scénarios, des films, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des comédiens plus faciles que d'autres à doubler, parce que tout bêtement, y en a qui ont une articulation des mouvements de bouche très marqués, mais ça dépend. Il y en a où très vite, on se dit, ah bah, je suis très à l'aise, j'ai pas. C'est assez proche de moi, ou c'est quelque chose que je pourrais faire ou dire dans la vie. Puis d'autres où c'est plus, y a plus un travail de recherche et de composition à faire, sachant quand même que dans le doublage, il faut aller assez vite parce que ben, on est convoqué et faut faire ce qu'on nous demande de faire tout de suite, quoi. Même si on est dirigé et qu'on reprend autant de fois qu'il faut, si on n'est pas tout de suite dans le bon rail. Mais selon les comédiens, ça dépend. Les comédiens qu'on a la chance d'accompagner sur la durée, assez vite, oui, on s'habitue peut-être au regard, au timbre de voix. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment pour moi de trucs fixe, ça dépend. Et ça dépend des rôles quand même. Un même comédien peut faire des choses assez différentes sur des personnages qui ne se ressemblent pas forcément les uns les autres.
On reconnaît tous votre voix, je pense, aujourd'hui. Les gens vous associent, je pense, évidemment à Orlando Bloom. Mais qu'est-ce que ça fait justement d'avoir cette voix qui est reconnaissable et de se retrouver dans des événements comme ça parce qu'on est la voix de tel acteur?
Oui, alors. Moi, je crois que j'ai un timbre assez neutre, ce qui en fait m'aide plutôt. Enfin, je ne suis pas trop marqué, j'ai une voix qui, j'allais dire, est assez passe-partout. En revanche, je suis toujours assez stupéfait de voir, pour Le Seigneur des Anneaux en l'occurrence, puisqu'on parle d'Orlando Bloom, du culte qu'il y a eu autour de cette trilogie, enfin, il y en a eu d'autres après. C'est vraiment, ça a marqué les gens et beaucoup la version française. C'est un film qui a été beaucoup vu en version française et qui assimile et qui disent vraiment parler. Genre, j'ai l'impression d'entendre Legolas en l'occurrence et tout. C'est très touchant en tout cas de voir que. On a fait ça seul dans un auditorium, le mieux possible et tout. Puis après de voir bah, la diffusion que ça a pris et l'influence que ça a sur plein de gens, quoi.
L'aventure du Seigneur des Anneaux, comment ça a démarré pour vous? Est-ce qu'il y a eu des essais?
Oui.
Et c'est la première fois que vous doubliez Orlando Bloom à ce
Oui,
moment-là.
il avait pas pas fait, je crois, énormément de choses avant. Il était intervenu dans un film qui s'appelle La chute du faucon noir de Ridley Scott. Il était aussi dans un film sur Oscar Wilde, je crois, et où je faisais un autre rôle, d'ailleurs, dans ce film. Et enfin, je doublais un autre rôle. Et oui, c'était des essais, et des essais qui, paraît-il, ont été écoutés soigneusement par Peter Jackson lui-même. Et je sais que Daniel Perret, la personne qui nous dirigeait dans Le Seigneur des Anneaux, m'avait dit à l'époque que c'est rare, mais il avait fait un retour lui-même sur tous les essais de voix qu'on lui avait envoyés, très circonstanciés, ce qui est assez rare. Donc on était, je ne sais pas, 4 ou 5 sur à faire des essais sur chaque rôle, ou 3 ou 4. Et voilà, bon, j'ai eu la chance d'être choisi sur le rôle de Legolas.
Et grâce à Legolas, est-ce que c'est grâce à ce rôle-là, qui est quand même visiblement assez marquant, que vous êtes devenu une voix récurrente pour Orlando Bloom, ou c'était pas encore, on va dire, fixé à ce moment-là ?
Rien n'est jamais fixé, on n'est jamais propriétaire d'une voix. Et le premier Pirate des Caraïbes a dû venir assez vite dans la foulée du succès du premier ou deuxième Seigneur des Anneaux, peut-être du premier. Et j'ai eu la chance qu'on me demande directement d'enchaîner sur le pirate, peut-être parce que la diffusion du le Seigneur des Anneaux avait eu un tel retentissement, la version française avait tellement bien fonctionné, qu'ils se sont dit, si jamais le pirate fonctionne aussi bien, ce qui a été quasiment le cas, je connais pas les chiffres exactement, mais se dire, bah, c'est un film où le public aura... Dans les deux cas, il s'agit d'un public assez large, qui peut être un public familial et qui a peut-être envie d'entendre les voix, qui a commencé à s'habituer à une voix sur un personnage et a envie de le retrouver à l'écran, même sous une autre identité, dans un autre film, mais avec la même voix.
Et ça change quelque chose d'être la voix reconnaissable d'un comédien ?
Non, ça change pas. Non, pas vraiment. Mais ça fait plaisir. Et puis, je trouve qu'il a eu des choix de carrière assez intéressants. Il a fait des choses différentes. Et passer de la guerre de Troie, il y a eu un film plus moderne qui s'appelle Rencontre à Elizabethtown. Il y a eu récemment une série qui s'appelle Carnival Row. C'est des univers assez différents. Donc, ça, c'est bien de le suivre dans toutes ses aventures.
J'imagine. Mais est-ce que ça vous a... Est-ce que quand on a su que vous étiez la voix d'Orlando Bloom, on a commencé à vous dire « Ouais, mais c'est trop reconnaissable, là, Orlando Bloom, ça va pas forcément aller sur mon personnage. »
J'espère que non. On me l'a peut-être pas dit, je sais pas. Mais c'est... Alors là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être plus vrai pour des voix très marquées, très, très typiques et associées à un type de personnage où on dit « Ah ben non, c'est trop reconnaissable. » Je me trompe peut-être, mais je pense que j'ai une voix relativement neutre, assez, et qui me permet qu'on n'identifie pas tout de suite. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Hein, mais...
Question de fan, Legolas ou Will Turner ?
Oh là 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 là. Là, je ne sais pas, je réponds moins innocemment qu'avant, parce qu'il aurait fallu me poser ça après les doublages des premiers, mais j'ai l'impression qu'il y a plus un culte encore sur Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, on peut le trouver pas ridicule, mais il est toujours l'elfe et le plus sérieux du monde. Il y a des gens qui se marrent en me redisant cette réplique qui est devenue culte. Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler. Parce que tout est dit avec beaucoup de... D'ailleurs, il y a un côté shakespearien dans la diction de cet elfe et tout. Alors que le pirate des Caraïbes, il y a un côté plus jeune, fougueux, pirate, amoureux, voilà.
Je l'associe personnellement à Errol Flynn.
Complètement. J'allais dire un Errol Flynn un peu plus moderne, voilà. Complètement.
Et comment les particularités de jeu de Orlando Bloom, comment est-ce que vous, petit à petit, qu'est-ce que vous trouvez qu'est-ce que vous trouvez de particulier chez lui ?
Il est assez sobre. Alors pour le Seigneur, c'est ce que l'on vient de dire, il y avait vraiment un côté très, il fallait avoir cette espèce de ton un tout petit peu, pas donneur de leçons, mais l'elfe qui voit les choses de son point de vue, qui livre assez peu d'émotions, mais qui... Il y avait en plus, dans les trois derniers, les Hobbits, la difficulté de parler en langage elfique, où il fallait on le faisait en français, j'allais dire, enfin ma voix, mais où d'ailleurs le travail était tellement bien fait que sur la bande qui défilait, on avait les phrases en elfique. Il fallait donc qu'elles soient encore plus synchrones, puisque là, il avait dit les mêmes mots, mais avec son accent à lui, et on avait le sens français, comment les jouer, ce que signifiaient ces phrases. Donc là, dans ce film-là, il avait un jeu, j'allais dire pas vraiment désincarné, mais comme ça, avec beaucoup de citations, le Gondor, les choses, j'entends ceci, je vois cela, alors que dans d'autres films, il a un jeu plus, je sais pas, plus bondissant dans Le Pirate des Caraïbes, plus dans le film Elizabeth Town, plus quotidien, dans Carnival Row, la série qu'il vient de faire, plus par contre, nettement plus presque un peu plus Seigneur des Anneaux, mais plus noir, plus profond. Et ouais, non, ça change. Il change beaucoup quand même selon les univers. Il a fait pas mal de films d'action les dernières années où il
Il
casse.
évolue en jeu aussi.
Voilà, ouais.
Il devient meilleur petit à petit, je trouve. Il
Oui,
était déjà très bon, mais il apprend, il a une expérience de jeu de plus
sûrement,
en
bien
plus
sûr,
large,
bien
quoi.
sûr. Il y a un film où c'était un petit peu différent, je trouvais assez agréable. Le film, il est ce qu'il est, c'était un remake des Trois Mousquetaires, un énième remake des Trois Mousquetaires avec Mila Jovovich. Et il faisait le duc de Buckingham, qui est un traître fini. Et il le faisait avec. C'était rare de voir à l'époque, en tout cas il en a fait peut-être depuis, mais de le voir aborder un univers un peu ironique, cynique, en se délectant un petit peu de toutes les méchancetés qu'il arrivait à distiller. Ça changeait, c'était pas mal du tout, je trouve.
Que vous êtes vraiment heureux de doubler Orlando Bloom. Franchement, c'est une chance
Ah
d'avoir ce
oui!
personnage dans votre carrière. Mais quel autre comédien vous a aussi autant marqué, voire aussi bien marqué que lui, et que vous voudriez mettre aussi en avant finalement?
Ah, plein. Il y en a un, alors la série, c'était plutôt une série pour adolescentes, un peu adolescente, qui s'appelait Sydney Fox. La série s'appelait Sydney Fox, l'aventurière. Et il y avait un côté un peu ce qui était rigolo, c'était sans prétention, mais c'était assez bien fichu. C'était un Indiana Jones, toute proportion gardée, sauf que c'était la femme qui faisait Indiana Jones, Tia Carrere, et elle était flanquée d'un jeune, un peu comme ça, un peu un jeune Hugh Grant et tout, qui était le conservateur de musée, tout jeune, secrètement amoureux d'elle. C'était un peu l'intello, complètement paniqué et tout, mais qui osait pas la, qui osait jamais trop, qui était toujours dans des aventures pas possibles avec elle. Et il était très marrant à faire. On s'amusait beaucoup à le faire. Il y en a eu plein d'autres. David Anders qui joue souvent les salauds, notamment dans Alias, dans I Zombie, pareil, qui a un côté un peu pervers, ça change un peu, j'aime bien. Et puis George Eads, que j'ai beaucoup fait dans Les Experts pendant 15 ans, dans d'autres séries, qui a un côté plus premier degré, très américain. Mais ça, non, non, j'aime bien tout ça, moi c'est.
Vous venez de me rappeler Christian Arnold et
Exactement, voilà.
Sydney Fox, c'est mon enfance, ça.
Ouais.
Mais vous avez cité George Eads qui a fait Les Experts pendant 15
Ouais,
ans. C'est
ouais.
pas finalement un peu lassant de se retrouver tous les ans à redoubler le même personnage un peu de la même façon?
Ah non, d'abord parce qu'on s'entendait super bien, François Dunoyer qui nous dirigeait, l'équipe était bien. Et moi, alors après on pense ce qu'on veut, je suis très amateur de polar et je pense que si la série a marché aussi fort et aussi longtemps, il y avait, en tout cas dans Les Experts Las Vegas, puisqu'après il y a eu Miami et Manhattan, une vraie recherche dans les. Elle a amené quelque chose dans le polar à la télé. Une certaine noirceur, mais il y avait presque. Moi, il y a un auteur de polar que j'adore, c'est James Ellroy, qui va assez loin dans la noirceur. Et toute proportion gardée, je trouve qu'il y avait certains épisodes des experts qui allaient assez loin dans la psychologie humaine, dans les dérèglements, les meurtres. Et d'associer ça à des techniques de pointe sur l'ADN, tout ça, pour résoudre des crimes, des énigmes. Je trouvais que la série avait quelque chose. Non, je m'en suis jamais lassé. Et je trouvais niveau scénario, ils sont arrivés à bien renouveler à faire qu'on. Ça sentait pas la série qui tournait en boucle. Je trouve, hein, je suis peut-être partisan parce que pas très objectif, mais je trouve que c'était une.
Quand il est parti, j'étais même un peu triste. Merci, Denis Lestria. Où est-ce qu'on vous retrouve? C'est quoi votre actu en ce moment?
Il y a une pièce de théâtre l'année prochaine, une reprise aussi d'un truc que j'ai déjà joué. Actuellement, en doublage, je suis toujours dans la série Grey's Anatomy depuis un moment, et surtout dans son dérivé qui s'appelle Grey's Anatomy Station 19, où c'est un peu le même personnage, mais qui de médecin devient médecin-pompier. Donc tout se passe dans une caserne, mais il continue à intervenir dans Grey's Anatomy. Et je viens d'enregistrer la version française du film annonce du prochain film avec Orlando Bloom, qui s'appelle Gran Turismo. Et le doublage aura lieu fin juin, début juillet. Et je pense que le film devrait sortir dans l'été ou en fin d'été. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais c'est moi.
C'était un grand plaisir.
Mais partagé, merci.